On va passer dans quelques instants une période de questions avec nos trois orateurs pour ce soir. Mais avant d'aller là, dernière question avec les clickers, avec nos télévoteurs. Le thème du symposium, c'est d'engager la conversation, avec vous, avec le public, parce qu'on croit que vous avez un rôle à jouer dans les débats sociaux au niveau énergétique, dans d'autres thématiques aussi, bien sûr, mais nous, on parle surtout au niveau énergétique. Alors, on voulait vous demander, et ça, il n'y a pas une seule bonne réponse, comment évaluez-vous votre capacité d'influencer les choix énergétiques au Québec? On parle beaucoup d'énergie dans les nouvelles assez régulièrement, mais vous, individuellement, personnellement, en ce moment, jusqu'à quel point pensez-vous que vous pouvez influencer les choix énergétiques du Québec? Est-ce que vous avez une très grande influence, assez grande, peu ou pas du tout? Alors, on va partir le télévoteur. Voilà. C'est ouvert. Réponses, il y en a encore quelques-unes qui manquent, voilà. On arrive toujours à peu près au même chiffre. C'est bon? 146, oh, 147. Quelques secondes de plus. Ça va? Alors, voilà le résultat. Presque la moitié d'entre nous estime avoir peu d'influence sur les débats énergétiques au Québec. On va demander aux 6 % de se lever. Non, c'est pas vrai. On a peut-être des gens plus influents qu'on pense dans la salle. Alors, c'est intéressant à savoir. Nous, ce qu'on veut encore là, c'est d'au moins essayer d'informer les débats, d'appuyer les discussions à ce niveau-là. Je pense que dans la présentation que vous avez vue sur le livre blanc de Stephen Gabriel, on ne propose pas de réponse définitive aux questions. On veut seulement encourager tout le monde à y réfléchir et à vraiment saisir la complexité des enjeux. Alors, on aimerait que tranquillement, encore là, on déplace le poids dans les barres plus vers la gauche et que vous sentiez que les gens sentent qu'ils sont vraiment capables d'influencer. Mais pour influencer, il faut tout d'abord être informé et vraiment comprendre les problématiques et les complexités. Alors, on espère continuer à avancer là-dessus dans les mois et les années qui viennent. Nous allons maintenant passer une période de questions. Alors, pour commencer, je vais demander à nos trois orateurs de venir s'installer en avant pour cette période de questions-là. Questions are welcome in both French and English, and we will make sure that communication works in both languages. Et je vais inviter le professeur Geza Yosh de l'Université McGill à venir modérer la période des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à aller soit à un des deux micros ici dans les allées, ou il y a des micros aussi qui sont disponibles sur les allées des côtés. Alors, on va faire le tour tranquillement avec les différents micros.
Alors, j'inviterai M. Trottier à poser la première question.
Bon, question, c'est pour Steve Gabriel, avec des pays que vous avez regardés dans votre côté du Nord. Est-ce qu'il y a des pays où une taxe de charbon ou dans les pays que vous avez regardés dans votre papier-là, est-ce qu'il y a des pays où la taxe de charbon ou le système de cap and trade a un effet sérieux sur la direction, l'évolution de l'énergie dans ces pays-là? Est-ce qu'il y en a ceux qui sont pas mal plus avancés que, mettons, la Californie?
Yeah. Answer in English, I guess. So. Yep. Not all the jurisdictions that we looked at had a well-established cap and trade. You know, some were in their infancy, let's say. And I think there's obviously the European Union that has ETS, so that's established, but they had some problems in terms of the prices going down quite a lot because of the allowances So there's some learning curve aspects going on. And this is an interesting question because we were on a project in Norway. You were on it, actually, involved somehow. And someone from Norway was asking, why don't we have a federal U.S. cap and trade? And it turns out, you know, in the U.S., it takes a while to get this federal mandate. It may never happen. But it's basically the states that are the laboratory for policy. And so you see in the slides that I had and some other people had, you have the Western Climate Initiative, you have REGI, there's some other local ones. So I would say from that point of view, the U.S. has some direction of what you just asked for, also Europe as well. But there are a lot of places that have don't even have markets, energy markets and emissions markets and things like that. So maybe, you know, Europe probably is ahead of everybody, but the U.S. not too far behind. I'm not sure I answered your question, but.
Yeah, I mean, from what I understand in Europe, their cap and trade system has not been very successful. What I understand in Europe, their system has not been too successful because the they issued too many permits or they made too many exceptions and so on, so it hasn't really had a bite. But, you know, most economists, from my understanding, believe that this is a very powerful tool that should be used a lot more. So countries that are really serious about doing it, I would have thought they would have bring in some measures that would be having a bigger bite. And I guess Europe is the leader right now, but it's not a strong example yet as far as that is concerned.
I would say one thing to add related to what you just said. So one idea behind the cap and trade is that you have the prices determined endogenously, you know, by the market. And so there are companies that are maybe more efficient in doing this. So they get that benefit because they can sell their technology, whereas if you fix the price, that's a little bit different. So it's not as endogenous. Obviously, there's books being written on these two different systems, but the auction approach seems to work in some settings.
Any other comments from the panel about cap and trade versus carbon tax?
Well, one comment you have to make that in Europe this has not worked particularly well. It's more difficult to implement aggressive energy policies when you have an economy that is doing well and you have low unemployment. Europe at this point in time, most of the countries are in severe financial crisis. We don't know if the currency of the euro is going to survive. And unemployment is quite high. So even these policies that have been put in, if it's not cap and trade, there have been talk about putting very heavy taxes on energy. But Switzerland is one of those countries looking at that. And companies would be excluded from it because of financial considerations. So it's very difficult to put these in place under the present circumstances, economic circumstances, in Europe at this particular point in time.
Thank you very much. So we'll move on to your question.
Merci. En fait, j'ai question pour tout le monde. C'est par rapport à, en fait, les gaz de schiste. On présume dans les présentations que, en fait, l'empreinte du gaz naturel, alors, si on n'inclut pas le gaz de schiste, a un impact moins fort que celle du charbon, par exemple. Mais selon des études, si on tient compte de l'effet le méthane qui échappe pendant le processus d'exploitation, plusieurs études indiquent qu'il a un impact encore plus significatif que celle de, en fait, les productions de charbon, les productions d'électricité à partir des charbons conventionnels. Est-ce qu'on a les droits de présumer ce que vous venez de dire? Les études étaient basées sur l'exploitation dans les bassins du Marcellus, par exemple. Il y a des variations, évidemment. C'est la première question. Je vais poser une autre. Par rapport au charbon, c'est dirigé vers le professeur Putkin spécifiquement. L'exportation du charbon vers l'Europe, en particulier en Allemagne, se provient d'où exactement? Il n'y a pas qu'un seul prix pour le charbon aux États-Unis. Les prix du charbon du bassin du Pacifique central est beaucoup plus bas que le charbon qui se provient des Appalaches, par exemple. Donc, d'où vient la plupart des exports? C'est probablement de l'Ouest, je présume.
Bon, j'ai une autre question. Quelqu'un veut répondre à la question?
Ah, allez-y.
Alors, il y a deux questions.
La première question. Oui. Moi, je vais prendre une chance de la première question. Je pense que la question, c'est est-ce qu'on cache des impacts indirects des gaz de schiste qui feraient qu'en fait, il y a beaucoup plus d'émissions que ce qui est publiquement révélé? Alors, je veux dire qu'il y a évidemment, il y a un débat sur le domaine. J'ai pas de position personnelle sur le débat, juste pour dire qu'il y a tout le temps un bell curve d'études dans toutes les technologies que j'ai évaluées où les impacts sont tout le temps diffèrent d'une étude à l'autre. Le processus de réglementation de l'EPA en général, c'est d'abord, ils prennent, quand ils écrivent un draft rule, ils prennent 30, 40, 50 études, ils se mettent dans une chambre et draftent leur réglementation basée sur toutes les études. J'assume qu'ils ont accès à toute cette documentation-là et je sais qu'ils ont fait beaucoup de travail sur les gaz et les échappations de méthane. Et numéro deux, après qu'ils ont leur règle sortie, ils ouvrent ça des commentaires pour le public, l'industrie et les différentes associations. Et il y a une période qu'ils peuvent leur permettre de réviser leurs règles. Et je sais qu'ils ont travaillé sur les émissions de méthane dans les dernières années ou deux. Je ne sais pas exactement où ils sont, mais je pourrais certainement suivre ça. Mais le débat n'est pas clos là-dessus. La deuxième chose que je veux dire, c'est que le méthane qui s'échappe est très cher aussi. Alors, c'est de l'incitatif. Les compagnies ont intérêt à le récupérer et pas le laisser. C'est fait. Alors, je pense à un endroit où l'industrie et les environnementalistes sont probablement du même côté.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur la question du méthane, non? Sinon, le charbon, il vient d'où?
Aucune idée.
Bon, autre question, là-bas, madame. Monsieur,
oui, ouais, si vous permettez. La question s'adresse à Monsieur Poudjian. Vous avez il y a une diapositive qui est passée assez rapidement sur les centrales nucléaires qui étaient planifiées dans les pays en voie de développement. Et ça m'amène à vous poser des questions sur, par exemple, des pays qui ont des programmes comme l'Égypte, qui vient de signer un accord avec la Russie pour le développement d'un programme nucléaire. Le Kenya, qui a dans sa politique énergétique un programme nucléaire assez important. L'Ouganda en a aussi. Je voudrais savoir si ces programmes-là, c'est un peu de la frime pour avoir des votes, ou si ça peut effectivement se réaliser dans un horizon dans quelques décades. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus?
J'avoue ne pas connaître les programmes qui sont dans ces pays que vous mentionnez. J'ai pas connaissance de programmes de gestion de déchets spécifiques dans ces pays-là. En général, ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr, l'épée de Damoclès de la technologie nucléaire telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est bien sûr les déchets au point de vue temps, carburant. Mais l'autre problème que l'on va avoir devant nous également, c'est que faire avec les déchets lorsqu'on va commencer à démanteler ces machines également.
Non, je ne parlais pas de la gestion des déchets, je parlais d'un programme de développement de la production nucléaire pour l'électricité.
La question est de savoir si c'est vrai.
Je n'en ai pas connaissance. Non. À ma connaissance, les nouvelles études qui sont faites, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de regarder la filière au thorium, qui a un certain nombre d'avantages, un certain nombre de problèmes. Ces pays sont, en début, c'était l'Afrique du Sud. La Chine travaille beaucoup là-dessus aussi, l'Inde aujourd'hui à l'heure actuelle. Et il y a un certain nombre de pays qui, bien sûr, travaillent sur la fusion et un certain nombre qui ont des plans assez agressifs, dans la Russie, sur ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides, c'est-à-dire des réacteurs de génération 4.
Bon, merci, madame.
Hi, good evening. My question is for Monsieur Baudry-Lozic. And two criticisms of biofuels that often come up are that the first one is that you've introduced a competition between food and fuel. And the second one is that the burning of biofuels still emits CO2. Would you care to sort of elaborate on that, those points a little bit?
Yeah, it would take a couple of days, though, but I'll do my best. So there certainly has been a debate for a very long time about the competition between food and fuel. I think it's a debate that's acknowledged even with the most biggest supporters of first-generation biofuels. Everybody agrees that first-generation biofuels, so kind of sugar cane or soy-based or corn-based biofuels, are just a step forward toward advanced biofuels. So biofuels from cellulosic ethanol, for example, or algae-based fuel, for example. So just to give the second information about my company, the algae company, so we're a form of biofuels that do not require land, doesn't require fresh water, so we require salt water. We just need sunshine and a source of CO2. And I think that directionally, this is where we want to go. This is where 100% of the focus of the DOE program was, is to bring these non-food biofuels to the market. So unfortunately, when the global mandates policies are set, the biofuels that are ready to go are the quote-unquote food-based biofuels. So I think you've seen the U.S. Congress over the next 2 years, a taming of the first-generation biofuel mandate and strengthening our second one. But it's definitely something that, it's really an acknowledged debate and an issue with the food-based biofuel. And as a result, nobody really believes it's the long-term solution to fuel. So you had a second question, I think.
CO2.
CO2, yeah, they do emit. They definitely also emit carbon dioxide because they require some, power, natural gas, the corn ethanol plants. Cellulosic ethanol requires some energy to separate the ethanol from the water. Same for our algae fuel company. But the EPA approves pathways and gives credit based on the reduction of greenhouse gas versus gasoline. So, for example, you get a credit if your emissions are half those of gasoline. You get a bigger credit if your emissions are more than 60% those of gasoline. So, cellulosic ethanol companies typically can reduce GHG emissions from 70% to 90% versus gasoline. And I just want to add one point against my good friend in the electrical vehicle industries. Because people that put in EVs and think they don't do emissions are not quite correct. They still have to feed themselves on the grid that could be. And if you're in a coal area, you're actually increasing the amount of greenhouse gas in the atmosphere, which people don't see at all. But I had to do that, sorry.
Thank you.
There's an enormous effort ongoing in Europe in a technology called power to gas, which particularly in Europe has a lot of application. That is to say, using excess renewable energies, and you saw my slides on that, to basically use those energies to drive production of biofuels and bioenergy.
I just want to say, following up on the food versus energy thing, as I mentioned in the presentation, we have some projects with the District of Columbia Water and Sewer Authority. And there they take wastewater, they compress it with the digestive process, and they get methane. And what do you do with the methane? You can use it for compressed natural gas, instead of petroleum-based fuels for transport, which is much better from an emissions point of view. You can produce electricity. You get carbon credits. The thing about wastewater that's really interesting is it correlates positively with population growth. So more people, more wastewater, more energy. It's sort of a virtuous cycle, if you will. And there's all kinds of incentives to do it for the wastewater treatment plant. This is one of the biggest in the U.S. There are many countries and wastewater treatment plants in countries that do this already, but this is a very untapped resource. If you look at the U.S. Renewables, it's about 7-8% of the total, I think, power production. Of that 7%, 50% is biomass, like we're talking about, but very little bit of that is wastewater. And in fact, it's so important in the Washington, D.C. area that the local power company, Pepco, was going to lose 15 megawatts of electricity that they could provide to this D.C. Water and Sewer Authority. They said, forget it. We will set up shop here. We'll actually produce 10 megawatts, but we'll take care of it, because they saw it as a huge change. So there's no silver bullet here. There's many small bullets, if you will, to try and complete the picture of the portfolio that gives you the renewable standards you're trying to match. and maybe some of it is gas, natural gas. There was an interesting, we had a conference in Washington where one of the professors from Texas talked at it, and he said, Texas, this is one of the slides, why has Texas improved its emissions portfolio so well? Because we care so little about the environment. And it was basically, you switch to gas from coal. And so there's interesting sort of a balance of economics and environment that will make this happen.
Thank you very much, you, gentlemen.
Yes, I have three quick questions for you. Actually, excusez-moi, je parle en français. I was just so used to it. So the first one is a following of Mr. here. It's, I forgot my question, never mind. Donc, ma deuxième question, c'était par rapport aux algues et donc... Entre autres des algues, quand on essaie de produire des plantes pour les transformer en combustible, on essaie d'avoir un plus grand apport en CO2. Donc, on veut prendre le CO2 rejeté par une usine, peut-être une cimenterie, disons, et on va l'amener, puis avec la photosynthèse, on va faire du fuel.
Exactement.
Mais ma question, c'était, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les plantes des serres? On a beaucoup de serres en Amérique du Nord parce qu'il fait froid. Pour de la récupération du CO2, pour la fixation de carbone dans la terre. On utiliserait un apport injecté direct depuis les usines qui rejettent du CO2 vers une serre. Puis ma deuxième question était... On a parlé très rapidement, Monsieur Podgen, vous avez parlé très rapidement de la symbiose des quartiers, donc d'essayer d'avoir un ensemble d'établissements qui, avec leur input-output respectif, allaient créer un genre d'ensemble autosuffisant. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ça?
Okay, je vais d'abord répondre à la question sur les algues. Oui, non, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans des serres. Il y a beaucoup d'expériences qui se font dans les serres. Nous, en ce moment, on n'envisage pas, par exemple, de faire d'algues dans les serres parce que au début, ça ajoute beaucoup au coût de capital. So, essentiellement, les coûts variables d'une usine d'algues sont très faibles. Le CO2, le solaire est gratuit, quelques pompes pour avoir de l'eau salée, mais le coût en capital de l'infrastructure, nous, surtout, on sert de photobioréacteurs, est assez élevé par acre. Alors, ajouter une serre au-dessus de ça doublerait essentiellement nos coûts en capitaux. Et parce qu'on compétitionne avec des sources d'énergie qui sont à très bon marché, on essaie vraiment d'éviter des coûts de capitaux supplémentaires. Ça ne veut pas dire que dans le futur, c'est pas quelque chose qu'on regarderait. Techniquement, d'après moi, c'est absolument faisable.
En fait, c'est une bonne réponse, mais je veux juste rectifier le tir sur ma question. C'était plutôt, est-ce qu'on peut pas accélérer la croissance des fruits et légumes en injectant du CO2?
Ah oui, ça se fait absolument, oui.
OK. Et oui. Pour
Si j'ai bien compris, votre question a trait de cette notion d'essayer d'avoir une certaine synergie entre bâtiments au point de vue construction et rénovation, c'est bien ça?
Oui.
Si vous prenez un quartier entier, vous allez généralement avoir un certain nombre d'habitations, d'appartements, vous allez avoir des petits commerces, vous allez avoir des écoles, vous allez avoir des administrations. Et typiquement, si vous regardez les courbes de charge sur une semaine de ces différents utilisateurs, elles seront très différentes au point de vue de quand elles utilisent l'énergie. Et si vous rénovez ceci bâtiment par bâtiment, vous ne pouvez pas tirer avantage de cette synergie. Vous ne pouvez pas installer du stockage centralisé pour tout un quartier. Vous ne pouvez pas installer des réseaux de chauffage à distance également sur un quartier entier. Et donc, également, la difficulté, c'est que si vous laissez faire ceci individu par individu, il suffit que quelques bâtiments ne veulent pas participer à ce genre de rénovation pour que vous perdiez effectivement tout cet effet de synergie. Par contre, la difficulté, bien sûr, vient du fait qu'aujourd'hui, la rénovation est surtout laissée à des propriétaires individuels. Et si vous voulez faire ceci, il faut que l'État joue un autre rôle à ce niveau-là, de pas seulement subventionner à la fin des rénovations, mais prennent des initiatives de le faire, ce qui politiquement, dans les pays occidentaux, serait une révolution très difficile à mettre en place. Mais c'est bel et bien celle-là qu'il faut faire si on veut avoir un impact significatif.
Non, avec la somme des parties individuelles, c'est ce que vous voulez dire?
Oui. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire une espèce de coopérative énergétique, ce qu'aujourd'hui ne se fait pas dans les pays qui sont les nôtres.
Merci. Et si vous pouvez me permettre, ce ne sera pas très long, je veux juste vous demander, pourquoi est-ce que chaque pays, par rapport au nucléaire, doit à chaque fois réinventer de la technologie? J'ai cette impression. Est-ce que je suis dans l'erreur qu'il n'y a personne qui a décidé de donner son information, ses connaissances à un autre pays? À chaque fois qu'un pays obtient le nucléaire, il l'a développé dès le début. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un échange international là-dessus?
Comme disait le général de Gaulle, vaste sujet. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces considérations politiques.
Monsieur,
our first speaker mentioned briefly feed-in tariffs, and I know very little about sort of what happened in Europe. I was wondering if you could just expand generally for the audience of what happened and I guess where the system is going for feed-in tariffs or how they sort of failed or didn't work or did work.
You want me to try to answer that?
In general, an overview or...
In general, the feed-in tariffs got massively started primarily in Germany. This happened actually before Fukushima, but it was accelerated then. The philosophy is that you encourage people to build new photovoltaic and wind primarily. And you do this by guaranteeing them a very attractive price for energy over a fairly long period of time, typically 15 to 20 years. To pay for those investments, and again in Germany last year was about 24 billion euros, to pay for this, what you have is that all consumers pay a surtax for the electricity to be able to pay for those subsidies, if you want. That's why in Germany today it's about 6.4 cents of euro that every consumer actually pays for this. The result of this has been, of course, that in Europe, in Germany, creates a lot of jobs. Germany has a low unemployment, fairly low unemployment rate, but primarily generates and creates fairly low-paying jobs. So there are today people in Germany that can no longer afford to buy electricity. They get subsidies from various ONGs. At the same time, the only folks that really make any money out of this are the people that actually install PV on their roofs. They get away with very significant benefits. The other aspect of this has happened is this massive development. At some points in time, during summers and weekend days in Germany, the entire production of electricity, the entire demand of electricity in Germany is met by wind and solar. The result of which, of course, is that you cannot shut down the coal power plants and the nuclear power plants that rapidly. So Germany has to sell that energy at any cost. So the result of this is that the spot price of Europe of electricity at some points has gone negative. So Germany has actually paid the surrounding countries to take the excess electricity. That's as far as this has gone. The other result of this is that there are some very good gas-fired power plants that have been built in Germany before this got started. But for a gas power plant to be economically viable, it needs to run a certain number of thousands of hours per year for it to be economically viable. That's no longer the case. So those very good gas-fired power plants, combined cycle with very good efficiencies and low emissions, are standing idle. They're mothballed at this point in time. And what you use instead are fairly cheap, very inexpensive because fully amortized, very old coal-fired plants to make it. So Germany today, which has gone to this feed-in tariffs, promoting renewable energy, has started to get out of nuclear energy. Its CO2 emissions are increasing very rapidly. And that's the result you get if, unfortunately, you have political decisions that are reached that were very short-term and perhaps not looking longer term. I make one final comment on policy. Madame Merkel, the Chancellor of Germany, is a remarkably astute politician. So she has now, in the last election, made a coalition with the Socialist Party, and she has put the Vice Chancellor of Germany, who is a socialist, who is now in charge of the economy and of energy. He is the gentleman that has to start announcing to the German folks that have invested in renewables that those feed-in tariffs are going to be decreased. So from a political point of view, it's an interesting story.
The U.S. experience?
I can't speak for the whole U.S., but I would say, just following on what Teddy was saying, there's an interesting article in the New York Times the last year or so about, I think it was Texas, where you need the backup power if you're having mostly wind because of the variability. You needed to have some sort of thermal-based one, and so it was coal, and in fact, you might actually have more emissions because you have this running all the time just in case. So I get back to his initial kind of moral of the story, which is the stockage. It's basically the most important thing because all this is due to variability, and if you could eliminate that somehow by having the storage, you know, in a more industrial size, then you eliminate a lot of these problems. And maybe then the unintended consequences of with these feed-in tariffs, some of that might go away.
But could you add, though, that feed-in tariffs, and one thing has not been a policy tool that's been favored at all in the U.S. So in the U.S. we tend to like better portfolio standards or mandates, but feed-in tariffs, for whatever reason, have never taken off in the U.S. Just
If I can ask you a question, where do we stand in storage?
From a technology
yes,
point of
from view? From a technology point of view, in Europe and in the U.S.
Well, my home country, Switzerland, used to be known as the battery of Europe, i.e. we have a lot of hydro storage in Switzerland, we have a lot of pumps.
You're an exception.
Well, but it was an important exception. At this point in time, these plants are no longer economically viable either. The only mass technology we have to store energy massively remains hydro. It's trying to be developed. There are some efforts ongoing on larger lithium-ion batteries, which are still very expensive. There's efforts ongoing with hydrogen, so there are technologies that are being developed. We're still relatively far away from actually doing that. But there are other technologies which, in fact, are storage, and that's biofuels can be looked at as one area of energy storage as well. So there are technologies that are being looked at. But until we start subsidizing storage along with renewables, we're never going to make it, because at this point in time, there is no financial incentive to build storage.
Yeah, I think there needs to be some new market mechanism where we pay people for capacity and not only for production. That would enable, I think, storage to take off. It's a big market failure there.
We need to change the subsidies for renewable energies on capacity and only subsidize it if it has capacity for production and capacity of storage.
Yeah.
One idea which has been floated around, I think it's been maybe in use a little bit, but I think Norway might even, when we talk about Norway tomorrow, might even be brought up. So you have these electric vehicles, which obviously are not a huge percentage yet, but they have the potential for that. And so, you know, the charging and discharging of these millions of cars in some places, those are essentially battery storage that, you know, during the day you park your car and you have some agreement with the power company and the automobile company, which is important to say, to discharge that to, balance out, let's say. And some students in one of my classes at the University of Maryland, they did a study on this for Washington, and it was something like, I forget the exact amount, but it was around 25% savings in not having expensive gas peaking machines to cut down the peak for the demand, but rather to use this storage. And it was dramatic. And people have done studies on this following up, but I think that's one it's a distributed approach to storage, which is a very interesting one if it actually takes off.
There's one more question.
Yes. Ouais, on en est beaucoup d'exemples où les subventions amenaient de fait des distorsions importantes et menaient à des aberrations. Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas tout simplement de s'assurer qu'on ne donne pas de subventions et que l'énergie est vendue et achetée et produite à son coût.
Ce train-là est sorti de la gare il y a plus de 50 ans. On a subventionné pratiquement toutes les formes. On est encore aujourd'hui en train de subventionner le charbon. On a beaucoup subventionné le nucléaire. On a subventionné pratiquement toutes les formes d'énergie, y compris beaucoup de technologies d'être plus rationnelles au point de vue consommation d'énergie aussi. Donc, si d'aller vers un monde sans subvention, aujourd'hui, est une large utopie.
Ouais, il y a aussi des subventions et les mandats sont nécessaires parce qu'il y a aussi des marchés qui sont brisés. Par exemple, le monopole des compagnies pétrolières sur la distribution au détail de l'essence implique que les mandats sont importants pour permettre l'accès au marché aux nouvelles technologies aussi. Il y a plusieurs raisons. C'est un domaine qui a été complètement subventionné et réglementé à mort. Alors, c'est vraiment un domaine où... s'il y a un objectif public qui est important où le public investisse pour faire une différence aussi, parce que les mécanismes du marché n'ont pas fonctionné dans certains aspects du marché de l'énergie, comme avoir les GES, un bon exemple, par exemple.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour les questions.
On arrive à la fin de la soirée. Pour commencer, je veux remercier nos trois orateurs pour leur participation ce soir. Et j'ai un petit cadeau de remerciement pour chacun d'eux. Alors, Teddy?
Ça va passer aux douanes.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Jacques? Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et Steve.
Merci
beaucoup. Voilà. Et merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. Quelques éléments d'information juste avant qu'on finisse la soirée ici. Pour commencer, vous êtes tous invités à revenir demain, 17h, même endroit, même heure, pour continuer la conversation avec trois autres présentations et d'autres thématiques à explorer. On va parler d'électricité. Et on va parler beaucoup des aspects des changements climatiques aussi. Alors, j'espère vous revoir tous demain soir. J'ai mentionné qu'il y a un prix de présence. Il y avait un contenant qui devait circuler dans la salle. Apparemment, c'était un petit peu compliqué dû à la structure de la salle. Alors, le contenant est à l'entrée de la galerie Roland, où on va aller maintenant pour le cocktail dînatoire. Je vous invite à mettre votre carte d'affaires ou votre nom dans le contenant pour qu'on fasse le tirage du prix de présence pendant le cocktail un peu plus tard ce soir. Il y a aussi un kiosque à photos où vous pouvez être photographié avec votre choix énergétique préféré. Et vous verrez ce que je veux dire quand vous vous y rendrez. Alors, je vous invite à explorer cette opportunité de photographie aussi. Finalement, les télévoteurs, il n'y a pas de questions maintenant. Mais je vous demande de les remettre à la sortie pour qu'on puisse les réutiliser demain soir. Alors, merci beaucoup à tous d'être venus. Bonne soirée et à demain.